Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. La reine Blanche de Castille, noble et belle figure féminine de l'histoire de France du début du XIIIe siècle, mère du roi Louis IX, dit aussi Saint-Louis, est invariablement décrite dans les manuels scolaires comme la mère abusive et la belle-mère intransigeante par excellence. D'un livre à l'autre, elle est qualifiée de belle-mère acariâtre quand elle n'est pas traitée de virago, terme dérivé du latin vir, homme, désignant une femme d'allure virile au comportement masculin. Bien des historiens ont vu dans cette reine une femme assoiffée de pouvoir et peu désireuse de transmettre celui-ci à son fils aîné. Vérité, légende, Blanche de Castille fut-elle cette femme monolithique, froide et insensible qui rendit la vie impossible à sa belle-fille Marguerite de Provence? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode en deux parties. Première partie, reine, veuve et mère. Voyez, la reine Blanche nourrit elle-même son nourrisson. Une reine de France n'est pas supposée le faire. Des nourrices sont prévues pour cela. Pourtant, elle s'acquitte de ce devoir avec un soin jaloux, ne voulant pas que le futur Saint-Louis prenne d'autre lait que le sien. Hier encore, alors qu'elle était trop fiévreuse pour nourrir son fils, une dame de la cour, qui allaitait aussi le sien, a présenté son sein à l'enfant royal qui l'a saisi avidement. Blanche, revenue de son accès de fièvre, a présenté aussi son mamelon au prince qui l'a refusé. Elle a demandé si l'on avait donné à téter à son fils. Celle qui avait rendu cet office s'étant nommée, Blanche a mis le doigt dans la bouche de son fils et lui a fait rejeter le lait qu'il avait pris. Comme cette action étonnait ceux qui se trouvaient présents, elle leur a dit « Et quoi ? Prétendez-vous que je souffre qu'on m'ôte le titre de mère que je tiens de Dieu et de la nature ?» La jeune reine de France, Blanche de Castille, s'occupe de ses enfants au-delà de ce que l'on attend d'une reine. Et de surcroît, elle n'est pas femme à se laisser dicter sa conduite. Qui est cette jeune personne déterminée ? Son vrai prénom n'est pas Blanche, mais Bianca, car elle est espagnole. Elle est née le 4 mars 1188 à Palencia, en Castille. Elle est la fille d'Alphonse VIII le Noble, roi de Castille, et d'Aliénor d'Angleterre, fille du roi d'Angleterre Henri II Plantagenet et de la grande Aliénor d'Aquitaine. Elle a donc pour grand-mère cette femme extraordinaire qui a été successivement reine de France et reine d'Angleterre. Une femme qui, en 1152, n'avait pas hésité à quitter son triste sire de mari dans une époque où la chose était impensable et scandaleuse. Et elle l'avait quitté pour épouser un autre homme, devenu roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II Plantagenet. La jeune Blanche, la jeune Bianca, a donc de qui tenir. Et l'idée de la marier avec Louis, le fils aîné du roi de France Philippe Auguste, est venue précisément de cette grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, qui espère ainsi mettre un terme au long conflit des Capétiens et des Plantagenets. Et comme elle tenait beaucoup à cette réconciliation, Aliénor s'est rendue en personne en Castille en 1200 pour aller chercher sa petite-fille Bianca et la ramener à la cour de France. Ce mariage et d'ailleurs son dernier acte politique. Pourquoi avoir choisi Bianca et pas une de ses sœurs, par exemple? Eh bien, précisément en raison de son prénom. Son autre sœur à marier se prénomme en effet Urraca, ce qui serait bien trop difficile à prononcer pour des Français, là où Bianca sera aisément transformée en Blanche. Blanche est âgée de 12 ans. Âge de la majorité pour les filles à cette époque, lorsqu'elle épouse le 23 mai 1200 le jeune Louis, futur Louis VIII, âgé lui de 14 ans. Il forme un ménage des plus harmonieux, Louis VIII étant décrit comme un homme pieux, généreux, aimable et vaillant. 5 ans plus tard, Blanche donne naissance à son premier enfant. 11 autres suivront entre 1205 et 1225, soit entre ses 17 et ses 27 ans. Des enfants dont presque tous mourront en bas âge ou à l'adolescence. À la cour de France, Blanche est très isolée. Elle ne connaît personne. Mais elle est de taille à se défendre. Elle a de la force de caractère et de la détermination. Et l'on ne peut pas lui imposer n'importe quoi. Ainsi, lorsque son mari part à la conquête de l'Angleterre et que le roi Philippe Auguste, son père, refuse de lui envoyer des subsides, de l'argent, Blanche, indignée, menace son beau-père de mettre ses enfants en gage. Le roi est très impressionné par tant d'aplomb.
Elle est digne, dure, altière et même revêche. Dans le foyer d'un simple particulier, on dirait sans doute qu'elle est insupportable. N'intimide-t-elle pas jusqu'à son beau-père Philippe Auguste, qui n'est pourtant pas du genre pusillanime ?
Voilà ce que dit le duc de Lévis-Mirepoix, auteur d'une biographie de Saint-Louis. Pour Blanche, ses enfants passent avant tout, et elle va notamment occuper une part prépondérante dans la formation spirituelle et intellectuelle du troisième de ses fils, Louis, né le 25 avril 1214. Comme il n'est pas appelé à régner, Blanche compte en faire un moine. Elle le connaît mieux que quiconque.
C'est avec émerveillement qu'elle voit grandir ce fils qui dépasse ses espérances. Elle met toute sa vigilance, toute sa tendresse à bien l'élever, à le préparer soigneusement à la grande tâche qui l'attend. Elle lui procure les meilleurs maîtres, veille sur ses études et prend soin de le confier à des clercs qu'elle sait pieux et irréprochables.
Selon un chroniqueur contemporain, Louis est d'évidence celui qu'elle aime avant tous les autres. Se fondant sur les témoignages selon lesquels elle aurait déclaré préférer voir son fils mort plutôt qu'en état de péché mortel, certains en ont déduit que Blanche était une croyante intransigeante à l'excès, pour ne pas dire exaltée. C'est oublier que l'idée selon laquelle la mort du corps est préférable à la mort de l'âme est alors très puissamment ancrée dans l'esprit de chacun. Cette conviction n'est donc en rien celle d'une mère exceptionnellement pieuse à la dévotion rigide, mais celle d'une humble croyante. En revanche, il est tout à fait exact que Louis, futur Louis IX, futur Saint-Louis, grandit entouré d'hommes de Dieu et qu'il est abondamment nourri de l'enseignement de Saint-Augustin, la cité de Dieu, une théorie politique fondée sur la correspondance de l'ordre du monde avec la volonté divine. En 1218, Blanche et son époux Louis VIII perdent leur fils aîné Philippe, qui meurt à l'âge de 9 ans. C'est donc Louis qui devient à 4 ans l'aîné de cette famille nombreuse. Et 8 ans plus tard, alors que son éducation est encore loin d'être achevée, il perd brutalement son père qui succombe le 8 novembre 1226 de dysenterie, alors qu'il regagnait Paris après avoir mené campagne dans le sud de la France contre les Albigeois. Apprenant la mort de son mari, Blanche est folle de douleur et de désespoir. On assure que sous le choc de la nouvelle, elle se serait tuée si on ne l'avait retenue.
Cette mort l'atteint dans tout son être, dans toutes ses fibres. Louis était tout pour elle. Sa mort ruine deux existences.
À peine 3 ans de règne, et voilà Blanche seule, avec un petit garçon qui n'était pas destiné à devenir roi. Elle a 38 ans, son mari est mort, son père est mort, sa mère est morte. Cette reine veuve, étrangère, n'a ni parenté ni amis dans tout le royaume. Or, du jour au lendemain, elle doit régler seule les conflits en cours. Faire face aux revendications des barons et aux troubles de l'Église, elle n'a pas le choix. Il lui faut prendre sur elle, dominer son immense chagrin et faire au plus vite couronner son fils. Les choses ne vont d'ailleurs pas traîner. Les obsèques de Louis VIII ont lieu le 15 novembre 1226. 2 semaines plus tard, le 29 novembre, après avoir été fait chevalier à Soissons, Louis est sacré à Reims en présence de la plupart de ceux qui, sur le lit de mort de son père, ont prêté serment de le servir fidèlement. Désormais, Louis est roi. Mais il n'a que 12 ans. Est-ce à lui de mater les barons révoltés? N'est-il pas légitime que sa mère occupe le premier plan durant les années qui le séparent encore de sa majorité? Et qu'à défaut d'avoir le titre de régente, elle en exerce l'autorité. Louis n'est-il qu'un adolescent dépossédé du pouvoir par une mère autoritaire, ou un roi trop jeune pour régner que sa mère associe autant que possible à l'exercice du pouvoir? Peut-on parler d'une volonté de domination exclusive de Blanche sur son fils Louis, ou doit-on plutôt admettre que Blanche n'a pas d'autre choix que de se montrer forte, de prendre les choses en main, et que la douceur féminine n'est pas ce que l'histoire demande à une mère qui défend le trône de son fils.
Être reine à l'époque, ce n'est pas jouer un rôle décoratif, c'est se vouer à une tâche exigeante, prendre une part active à l'administration du royaume, et parfois l'assumer seule.
Blanche n'accapare pas son fils, au contraire, elle le confie au meilleur précepteur. Dans les années qui suivent la mort de Louis VIII, soulèvements, prises d'armes et combats s'enchaînent. Certains barons refusent d'être dirigés par une femme et un enfant de 12 ans. Ils cherchent à s'emparer du gouvernement et envisagent tout bonnement d'enlever Louis. Le jeune homme, réfugié avec sa mère dans la forteresse de Montlhéry, ne doit son salut qu'à un sursaut de loyauté des Parisiens qui viennent le chercher et l'escortent jusqu'à Paris, où nul ne peut plus l'atteindre. Il faut attendre 1229 pour que ces barons acceptent d'entendre raison. La même année, c'est aussi Blanche qui, en tant que régente de fait, permet le traité de Meaux-Paris, un traité qui met fin au conflit albigeois opposant le roi de France au comté de Toulouse. Ce traité prépare le rattachement définitif des pays occitans au domaine royal. Pendant toutes ces années, les actes royaux sont signés indifféremment par Louis et sa mère. Il est donc assez difficile de déterminer les décisions prises par l'un ou par l'autre, mais cela atteste au moins du fait que Louis n'a jamais cessé d'être associé aux décisions, quand bien même il n'en est pas toujours à l'origine. Les années passent avec leur cortège de dangers et de médisances. Le pouvoir de Blanche est constamment mis en cause par les barons qui prétendent qu'elle retarde délibérément le mariage de Louis, alors que celui-ci a maintenant 14 ans, pour rester maîtresse du pouvoir. Les barons voudraient renvoyer Blanche et son entourage et prendre d'eux-mêmes en main le gouvernement du royaume sous l'autorité nominale du jeune roi qu'on déclarerait majeur du fait de son mariage. Blanche n'a-t-elle pas déjà interdit à son fils de faire valoir ses droits sur la Castille? Quant à son mariage, il est vrai qu'elle a trop longtemps laissé traîner les choses. Elle choisit donc elle-même la future femme de son fils. Bien que roi, Louis est encore mineur, donc il est normal que ce choix revienne à sa mère et au conseil royal et non à lui. Blanche choisit Marguerite de Provence, aînée des quatre filles de Béranger IV, comte de Provence. Les mauvaises langues prétendent que Blanche ne veut pas d'une femme trop jolie afin que son fils ne tombe pas dans les pièges de l'amour sensuel et qu'elle craint que sa belle-fille ne prenne sur le roi trop d'ascendant.
Alors qu'elle-même veut continuer à régner sur le cœur et l'esprit de son fils comme par le passé.
Pourtant, Marguerite de Provence doit être assez jolie et désirable, puisque Louis IX, tout grand pratiquant qu'il est, s'accuse souvent en confession d'un manque de contrôle sur ses pulsions sexuelles qu'il réfrène, notamment en période de carême, en marchant pieds nus sur le carrelage. Mais revenons au mariage des jeunes gens. Le 27 mai 1234, Marguerite de Provence, âgée de 13 ans, épouse en la cathédrale de Sens Louis IX, qui vient tout juste d'en avoir 20. Sur leur anneau nuptial est écrit «
Hors Dieu et cet annel n'est point autre amour ».
Même si c'est Blanche qui a choisi Marguerite, l'arrivée à la cour de cette jeune femme est un moment difficile à vivre pour elle. Il va bien lui falloir partager son fils chéri avec sa belle-fille. Ensuite, il y aura désormais deux reines à la cour. Or, Blanche est loin d'être une vieille femme. Elle n'a que 46 ans et n'est pas disposée du tout à lâcher les rênes du pouvoir. Ce pouvoir qui s'est imposé à elle, elle y a pris goût, comme une charge et un deuil. Et elle entend bien qu'autour d'elle à la cour, chacun considère cet exercice
comme le premier des devoirs, celui qui ne souffre ni médiocrité, ni retard, ni amusement, ni excuse.
Comment va se dérouler la cohabitation entre la belle-mère et la belle-fille? C'est ce que je vous raconterai dans la seconde partie de cet épisode consacré à Blanche de Castille et sa belle-fille Marguerite de Provence.